Tamani, voici nos informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme du Studio Tamani. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. De nouvelles attaques contre des civils ont été perpétrées ce week-end dans le centre du pays. 4 personnes ont été tuées après que des individus armés ont ouvert le feu sur des véhicules des particuliers sur l'axe Sévaré-Badjangara. Pas de compromis entre le M5-RFP et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le chef de l'État, sa priorité du moment est la libération de Soumaïla Cissé, député élu à Niafenke et chef de file de l'opposition en otage depuis plus de 100 jours. Le syndicat national des banques, assurances et établissements financiers, SINABEF, menace d'aller en grève de 72 heures à partir du 22 juillet prochain. Les responsables ont déposé un préavis de grève le mercredi dernier. À la présentation, Mariam Maïga, Nohum Djiré assure la technique. Recrudescence de violence dans le centre du Mali. 4 personnes tuées, 1 blessé et 4 autres portées disparues. C'est le bilan provisoire d'une attaque contre un minibus ce dimanche 5 juillet sur l'axe Sévaré-Badjangara. L'incident a été perpétré par des individus armés non identifiés. Par ailleurs, toujours dans le centre du pays, un calme précaire est revenu dans le cercle de Bankas après l'attaque de 4 villes dans les communes de Tori et Djalassagou, ayant fait au moins 34 morts et 7 militaires blessés. Le point avec Moussa Malé Sissoko.
De sources locales, l'attaque s'est déroulée ce dimanche 5 juillet 2020 aux environs de 7h du matin. Des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur les passagers d'un minibus sur la route de Sévaré-Badjangara. Les conducteurs d'un camion de 10 tonnes et d'une Mercedes ayant coïncidé avec l'accident ont voulu secourir le blessé, ont été ciblés également par des tirs. Le bilan provisoire fait état de 4 morts, 1 blessé et 4 portés disparus, précisent les mêmes sources. Quelques jours plus tôt, 4 villages des communes de Tori et de Djalassagou ont fait l'objet d'attaques simultanées perpétrées par des bandits armés non identifiés. La situation sécuritaire serait calme ce dimanche dans ces localités du cercle de Bankas. Selon les sources locales, les habitants ont abandonné leur village au profit des chefs-lieux des communes. Toutefois, d'autres sources précisent que ces bandits armés non identifiés, après leur forfait, sont revenus vendredi et samedi dernier dans ces villages pour piller les magasins. Quant aux autorités locales, elles rassurent que le calme est revenu dans les zone et les populations déplacées bénéficient des soutiens. Elle affirme qu'un détachement de l'armée malienne est déjà sur place et continue de ratisser les lieux concernés. Rappelons que les attaques commises dans les villages des communes de Tori et Djalassagou ont fait 34 morts et une vingtaine de blessés ont été évacués au centre de santé de référence de Bankas.
Un compte-rendu signé Moussa Malé Sissoko. Suite à ces massacres, le collectif des associations de jeunes du pays Dogon exprime son désarroi et sa détresse. Lors d'un point de presse tenu le samedi dernier, l'organisation estime que le gouvernement se montre de plus en plus incompétent face à la gestion de cette crise. Ainsi, le collectif demande la démission du Premier ministre Boubou Cissé. Écoutons Adama Diongo, président du collectif des associations de jeunes du pays Dogon.
Le Premier ministre, nous avons l'impression qu'il n'a aucune stratégie pour pouvoir sécuriser la zone et arrêter les massacres. Il est là, ça fait depuis plus de 14 mois, mais aucune de ses actions n'a permis de faire revenir la paix dans cette zone-là. C'est pour cela que nous avons demandé au président de la République de le démettre de ses fonctions, de le remplacer avec quelqu'un d'autre qui pourra sécuriser toutes les populations. En dehors de ce risque communautaire entre ethnies de Dogon et Peul, il y a une seconde situation qui est l'invasion du crime organisé dans la zone. Et ce crime organisé dans la zone, il n'y a que l'État qui peut lutter contre ça.
Et rejoignez le cercle des amis de Studio Tamani en partageant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Twitter. Vous trouverez également ces informations sur nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Échec du dialogue amorcé entre le président de la République et le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, en abrégé M5-RFP. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu successivement samedi et dimanche l'imam Mahmoud Diko, puis les membres du M5-RFP pour échanger sur les voies et moyens de sortie de crise. Ces rencontres ont pris fin sans aboutir à un compromis. Pour le président de la République, sa priorité du moment est la libération de Soumaïla Cissé. Le M5-RFP appelle appelle donc à une désobéissance civile le 10 juillet à l'intérieur comme à la diaspora pour obtenir la démission d'Ibeka ou la satisfaction du mémorandum. Le point avec Maliki Diallo.
On a parlé de tout ce qui concerne cette crise de façon générale. Je pense que chacun doit faire violence sur soi pour que nous puissions se parler, se dire la vérité, mais que ce soit dans le respect et dans la courtoisie. C'est ce qu'a déclaré Imam Mahmoud Diko au sortir de sa toute première rencontre officielle avec le président de la République depuis le début de la crise sociopolitique il y a plus d'un mois. Ce tête-à-tête entre les deux personnalités intervient quelques jours seulement après la décision du mouvement du 5 juin de dialoguer avec le pouvoir pour une sortie de crise. Dans un mémorandum rendu public le 1er juillet, le M5 ne fait plus la démission du président Ibeka une impérative. Il exige notamment la dissolution de l'Assemblée nationale, le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, mais surtout de leur laisser le choix de désigner un premier ministre plein pouvoir. Le mémorandum rejeté par les partis politiques de la majorité ne fait pas non plus l'unanimité au sein du M5. L'Espoir Malikoura, l'une des organisations fondatrices du mouvement, se désolidarise du mémorandum et plaide pour le maintien du mot d'ordre initial qui est la démission du président. En attendant un compromis, le M5 maintient sa manifestation du 10 juillet.
La situation post-électorale à Sikasso reste toujours vive. En dépit des médiations, le camp des candidats mécontents aux dernières législatives veut toujours en découdre avec l'autre camp. Ce vendredi, des jeunes militants du camp Maléré ont tenté d'empêcher une réunion des députés du RPM à leur siège. La situation était très tendue, rapportent les sources locales. Mais le pire a pu être évité, nous dit notre correspondant Christian Dako.
La tension ne baisse pas à Sikasso. Des jeunes en colère ont envahi le siège du RPM pour empêcher une réunion initiée par des députés du RPM élus à Sikasso. Ils ont exigé des organisateurs de démonter les bâches et chaises sous peine de les brûler. Ces jeunes mécontents des résultats des dernières législatives dans la localité disent ne pas reconnaître ces députés et qu'il n'est pas possible d'accepter quelconque regroupement de leur car ils continuent de pleurer la mort de leurs camarades tués lors des derniers événements de Sikasso. Cependant, les responsables du parti RPM disent que la rencontre n'était pas une fête ou quelconque autre célébration, mais seulement une conférence de session pour remercier les militants du parti pour leur engagement. La dite rencontre a finalement eu lieu un peu plus tard avec un nombre limité de participants. Ce dimanche, le calme est revenu dans la ville. Christian Maldako, Sikasso pour Sud-Tamani.
Le syndicat national des banques, assurances et établissements financiers, SINABEF, a déposé le mercredi un préavis de grève de 72 heures à partir du 22 juillet. Le syndicat dénonce la mutation illégale d'une syndicaliste de la BDMSA alors qu'elle était en campagne pour le renouvellement du bureau de son comité syndical. Pour plus de détails, écoutons Hamadou Mba, secrétaire général du SINABEF, joint par Mouda et Sophie.
L'objectif n'est pas de caler sur la fête. On a une camarade qui a été mutée depuis 2018, Fatmata Sango, dont on parle aujourd'hui, qui est engagée syndicalement depuis mars 2018 pour essayer de changer l'équipe qui était là-bas à l'époque. Nous, notre engagement, c'est de combattre l'injustice partout où ça se trouve dans le secteur bancaire, assurance, microfinance, établissement financier et commerce humain. Et c'est pour donner la chance aux autorités. Ils ont un mois pour régler le problème. Et nous, sur les questions des droits, on ne badine pas du tout. Voilà pourquoi on a déposé ce préavis.
Un mois après la reprise des cours sur l'ensemble du pays, un cas positif à la COVID-19 a été déclaré au lycée Dougoukolo-Konaré de Kaï le vendredi dernier par la direction régionale de la santé. L'élève testé positif aurait été contaminé par sa mère qui avait été testée précédemment positive à la maladie. Selon le surveillant général du lycée, Issa So, toutes les personnes ayant été en contact avec le sujet malade ont été soumises à un test. Il est jeune par Alice ici.
La direction régionale de la santé de Kaï, le vendredi passé vers 13h, s'est rendue chez nous au lycée de Dougoukolo-Konaré pour nous notifier qu'un de nos élèves a été testé positif au coronavirus. C'est un élève qui a contacté à travers sa maman revenue malade de Bamako. Ils étaient au nombre dans la salle de 24 personnes. Donc nous les avons tous appelés le vendredi soir. Il y a eu des tests qui ont été faits aux élèves en question et aux professeurs aussi détenant les dites classes. Maintenant, nous attendons le résultat, mais la classe est mise en quarantaine.
Est-ce que vous envisagez d'élargir le test?
S'il le faut, nous, à notre niveau, c'est un autre raisonnement. Mais à la direction régionale et aux autorités administratives et politiques de décider de cela.
27 nouveaux cas positifs, 11 patients guéris, un décès ont été enregistrés hier dimanche 5 juillet par les services de santé. Ces nouvelles contaminations proviennent de Koulikoro, Tombouctou, Mopti, Gao et le district de Bamako. Au total, le pays enregistre 2330 cas positifs, 1527 patients guéris et 119 décès. À présent, cap sur la page Actu Covid, une réalisation de Moumine Sendebou avec l'appui de Moussa Malé Sissoko.
Un protocole de recherche de remèdes contre la COVID-19 démarre bientôt au Mali. C'est ce qu'annonce le responsable du Centre universitaire de recherche clinique au Mali. Comment fonctionne cette structure et dans quel cadre le traitement des échantillons et la collecte des informations sont effectués? Élément de réponse dans Actu COVID du jour. Le reportage est signé Moussa Mali Sissoko.
Le centre est logé à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. Il vise à promouvoir la recherche clinique et biomédicale au Mali et dans la sous-région. Selon le coordinateur d'études au Centre universitaire de recherche clinique, les essais cliniques portent généralement sur les vaccins ou sur les molécules administrées. Dr Oumar Guindo explique les recherches cliniques qui sont déjà lancées. Selon lui, chaque protocole de recherche a une durée précise.
Nous sommes sur un protocole de recherche clinique d'Ebola. Donc le protocole est pour 5 ans. La deuxième année va commencer à partir du mois de juillet. En plus de ça, nous avons d'autres études sur aussi le palud, des médicaments antipaludiens comparés avec d'autres molécules qui existent. Et maintenant, nous allons vérifier les nouvelles molécules pour voir l'efficacité de ces produits-là contre le paludisme.
Autre protocole de recherche envisagé par le centre concerne la maladie à coronavirus, annonce Dr Oumar Guindo.
Il y a même actuellement un protocole. Le protocole en question est déjà fini. Et peut-être dans les jours à venir, on va commencer. Et ça va se faire sur les malades déjà de COVID positif ou d'autres maladies comme les rhumes, les gens qui ont des difficultés respiratoires. Maintenant, par rapport aux maladies fébriles que nous disons, il y a Lassa, il y a par exemple la maladie de dengue. Ça, nous avons commencé le protocole il y a juste une semaine et ça également, ça va s'étendre sur 3 ans.
Rappelons que le centre est doté de 4 laboratoires, à savoir le laboratoire P3 de microbactériologie et des fièvres hémorragiques, un laboratoire de biologie moléculaire, un laboratoire d'immunologie, un laboratoire de biologie clinique et une unité de recherche clinique.
La question d'auditeur du jour porte sur l'impact des manifestations sur le taux de contamination à la COVID-19. Elle est répondue par professeur Yakuba Toloba, spécialiste des maladies infectieuses.
Allô docteur, pourquoi les manifestations n'ont pas eu d'impact sur le taux de contamination?
On n'a pas ressenti comme un boom, nous en tant qu'agents de santé. Pourquoi ne pas tester ces personnes pour exactement voir l'impact? Parce que l'impact n'a pas été mesuré. Quand même, après les manifestations du 5, en tout cas dans mon sens, j'ai connu un pic. Et puis maintenant, il ne faut pas qu'on baisse les bras, l'alerte est toujours là.
Ainsi prend fin Actu COVID d'aujourd'hui. À demain pour d'autres infos. N'oubliez pas, pour vous protéger du coronavirus, évitez les poignées de main et les accolades.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Le tour d'horizon de l'actualité régionale nous amène d'abord à Koutiala, où un meeting d'information et d'échange sur la campagne cotonnière s'est tenu ce samedi. La rencontre a été organisée par l'association IECHO. Des centaines de cotonculteurs de toutes les filiales, secteurs et responsables de la CMDT ont participé à ce meeting. Selon les organisateurs, la rencontre a permis de donner la bonne information sur le prix du coton, de l'engrais et de dénoncer les propos et agissements contraires de certains acteurs dans les campagnes. Assainissement et reboisement des locaux du 10e arrondissement de la région de Gao ce samedi par Rotary Club de Gao. Selon les initiateurs, l'action vise à soutenir les forces armées de sécurité dans leur combat. L'initiative a été saluée par le directeur régional de la police qui a lancé un appel aux populations à plus d'implication et de coopération pour la réussite de leur mission. Formation de 100 cotons conducteurs de motos tricycle sur le code de la route ce samedi 4 juillet au siège de l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture de Kaye. L'initiative de la Jeune Chambre internationale en collaboration avec l'Agence nationale pour la sécurité routière ANASER. Selon elle, cet atelier vise à former ses cotonculteurs afin de réduire les accidents de la circulation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais nous rappelons à nos chers auditeurs qu'à partir de ce lundi 6 juillet, Studio Tamani reprend son programme habituel tout en respectant les mesures barrières contre la COVID-19. Retrouvez nos éditions matinales de 8h à 9h30 et celles du soir de 17h à 19h. Studio Tamani vous remercie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas car l'info continue.